Un breuvage hyperboréen par Jack London. Nul ne saurait le nier. Thomas Stevens connaissait le Northland à livre ouvert, et maintes preuves confirment sa qualité de grand voyageur et coureur de pistes mystérieuses. Le soir où je le rencontrai à Dawson dans le bar de John O'Brien, sa tête était auréolée ou plutôt nimbée de fumée de cigare à un $0.5, et il me demanda mon sachet de poudre d'or. Nous étions debout près d'une table de pharaon, et il le lança aussitôt sur la haute carte. « 50 !» dit-il, et le croupier fit un signe d'assentiment. La haute carte sortit. Stevens me rendit mon sachet, exigea le règlement de compte, et me mena devant la balance où le caissier lui paya nonchalamment $50 en poudre jaune. « Maintenant, allons boire !» dit-il. Puis, au comptoir, en reposant son verre, cela me rappelle certains breuvages que j'absorbais dans les parages du Taltara. Non, tu ne connais pas l'endroit. Il n'est pas marqué sur les cartes. Mais c'est près du bord de l'océan Arctique, à des centaines de milles de la frontière américaine, et là vit une population de 2 000 000 d'âmes abandonnées de Dieu. Les explorateurs ont omis d'en parler, et tu n'en trouves pas de trace dans le dernier recensement. Néanmoins, ce fut un fameux breuvage que nous absorbâmes, Moussou et moi. Ajouta-t-il un moment après, avec quelque chose qui ressemblait à un soupir. Comprenant que derrière ce soupir se dissimulaient des hauts faits et de folles équipées, je le remorquai dans un coin. « Je n'avais qu'un reproche à faire à Moussou, » commença-t-il en redressant la tête d'un air méditatif. C'était un Indien qui avait franchi la frontière du pays des Chippewayans, mais l'ennui, c'est qu'il avait glané quelques notions d'histoire sainte, ayant eu pour camarade de campement pendant toute une saison certains métis franco-canadiens qui avaient fait des études pour entrer dans les ordres. Nous en avions vu de dur ensemble et nous trouvions en piteux état quand nous tombâmes sur Tatara. Nous avions perdu nos équipements et nos chiens en traversant une crête par un ouragan d'automne. Nos ventres étaient creux et nos habits s'en allaient en loques lorsque nous nous traînâmes dans le village. Les Indiens ne furent pas trop surpris de nous voir et nous offrirent la plus misérable hutte du village pour habitation et leur pire rebut pour nourriture. La chose qui me parut le plus étrange sur le moment fut leur façon de nous tenir strictement à l'écart. Moussou m'expliqua cette bizarrerie. « Shaman Sektutum, » dit-il, signifiant par là que le sorcier jaloux avait conseillé à ces gens de s'abstenir de tout rapport avec nous. « Ces gens-là ont une loi d'après laquelle quiconque mange de la viande doit chasser. Toi et moi, mon maître, serions bien maladroits dans le maniement des armes de ce pays. Nous ne savons ni tendre un arc, ni lancer des javelots à leur façon. » C'est pourquoi le chaman, ou le sorcier, ou Tomasuk, le chef, ont décrété que nous travaillerions avec les femmes et les enfants à traîner la viande et à pourvoir aux besoins des chasseurs. « En quoi ils ont eu grand tort ? » répondis-je, « car nous valons mieux, Moussou, que ces hommes plongés dans l'obscurité. »« Mais nous n'avons rien, » objecta-t-il en regardant les poutres pourries de l'igloo et ferrant avec dégoût le relent de la vieille viande de morse qui nous avait servi de souper. « Impossible de prospérer avec un régime pareil. Nous ne possédons rien que la bouteille de remède calmant, qui ne saurait combler le vide. Aussi devons-nous plier sous le joug de l'incrédule, tirer de l'eau et fendre du bois. Il y a pourtant de bonnes choses en cet endroit, des choses que nous ne pouvons pas avoir. Ah, maître, mon nez ne m'a jamais menti. Il m'a mené vers les cachettes et parmi les ballots de fourrure entassés dans leur hutte ou igloo. La femme Ipsuku, qui demeure à l'autre bout du village, près de l'igloo du chef, possède beaucoup de farine et de sucre, et j'ai même distingué de mes propres yeux des traces de mélasse sur sa figure. Et dans l'igloo du chef Tomasuk, il y a du thé, et le chaman possède un bocal de thé à la marque étoile et deux boîtes d'excellent tabac. Et qu'avons-nous, nous autres ? Rien de rien. Cette nuit-là, je réfléchis profondément pendant que Moussou ronflait, car je ne peux souffrir à l'idée de ne pas fumer alors qu'il y avait du tabac à proximité. Le lendemain matin, je lui confiai « Sors adroitement pour une de ces promenades dont tu as pris l'habitude et procure-moi un os quelconque recourbé comme le cou d'une oie et creux à l'intérieur. » Pendant son absence, j'installai au milieu de l'igloo le fourneau de cuisine à l'huile de baleine et repoussai, pour nous faire de la place, les fourrures râpées qui nous servaient de lit. Puis je démontai le fusil de mon compagnon et en mis le canon à portée de ma main. Ensuite, je tressai de nombreuses mèches avec le coton sauvage que les femmes cueillent en été. Moussou revint avec l'os que je lui avais demandé, et en m'apprenant que dans l'igloo de Tomasuk, il y avait un bidon à pétrole d'une contenance de 5 gallons et une grosse bouilloire en cuivre. Je lui déclarai que j'étais content de lui et que nous en resterions là pour toute la journée. Et aux approches de minuit, je le haranguai. « Ce chef, ce Toumasouk, possède une bouilloire de cuivre et un bidon à pétrole. » Je lui mis entre les mains un gros galet poli et lavé par les vagues. « Le camp est endormi, les étoiles scintillent. Bah, glisse-toi bien doucement dans l'igloo du chef et frappe-le sur le ventre, et dur. Et puisse la viande et la bonne nourriture des jours à venir mettre de la force dans ton bras. Il se produira du tumulte et des cris, et tout le village sera mis sur pied. Mais ne t'effraie pas. Dissimule tes mouvements. Fonds-toi dans les ombres de la nuit et la confusion des hommes. Et quand la femme Ipsoukouk te tombera sous la main, celle qui a la figure barbouillée de mélasse, frappe-la de la même manière, ainsi que quiconque possédant de la farine et qui passera à ta portée. Après quoi, tu te mettras à hurler de douleur, à te courber en te serrant le ventre à deux mains et à faire beaucoup de tapage pour montrer que toi aussi tu as subi l'épreuve de cette nuit. De cette façon, nous attirons de grands honneurs et de vastes possessions, entre autres la boîte de thé de la marque Étoile et le tabac de bonne qualité. Après son départ pour cette expédition, je restai patiemment dans ma hutte et il me sembla que le tabac se rapprochait considérablement. Puis un cri de frayeur éclata dans la nuit et s'enfla bientôt en rugissement poussé vers le ciel. Je saisis la bouteille de remède calmant et me précipitai dehors. Le tapage était à son comble, accompagné de lamentations féminines, et l'effroi pesait sur tout le village. Toumasouk et la famille Psoukouk se tordaient de douleur et se roulaient à terre, et divers personnages en faisaient autant, Moussou entre autres. Écartant rudement ceux qui me barraient le chemin, je portai la bouteille aux lèvres de Moussou qui, sur le champ, se sentit mieux et cessa de hurler. Sur quoi s'éleva une grande clameur de tous les autres affligés. Mais je les haranguai, et avant de leur permettre de goûter au remède calmant, j'avais mis Toumasouk à l'amande de sa bouilloire en cuivre et de son bidon à pétrole, extorqué à la femme Ipsoukouk son sucre et sa mélasse, et soutiré aux autres malades de bonnes mesures de farine. Le chaman regardait de travers les gens prostrés à mes genoux, bien qu'il eût peine à dissimuler sa surprise. Mais je tenais la tête haute, et Moussou, gémissant sous le fait du butin, me suivit sur les talons jusqu'à la hutte. Là, je me mis à l'œuvre. Dans la bouilloire de Toumasouk, je versai 3 kilos de farine de froment avec 3 litres de mélasse, et à ce mélange, j'ajoutai 15 litres d'eau. Puis je posai la bouilloire au voisinage du fourneau, afin que le contenu pût fermenter et devenir fort. Moussou comprit, et déclara que ma sagesse dépassait celle de Salomon, grand sage de l'Antiquité, d'après ce qu'il avait entendu dire. Je posai sur le fourneau le bidon à pétrole, dans le goulot duquel je fixai un tuyau, où j'adaptai l'eau en forme de coudoie. J'envoyai Moussou piler de la glace, j'ajustai à l'appareil le canon de son fusil, et j'entassai la glace pilée à mi-longueur autour du canon. Et sous l'extrémité du canon, je plaçai un petit pot de fer. Quand le mélange fut assez fort, et il fallut 2 jours pour qu'il se tînt sur ses jambes, je le transvasai dans le bidon à pétrole, et j'allumai les mèches tressées par moi. Toute chose ainsi présentée, je dis à Moussou, « Va-t'en trouver les notables du village, présente-leur mes salutations, et invite-les à venir passer la soirée dans mon igloo avec moi et les dieux. » Le breuvage susurrait sa joyeuse chanson quand les invités commencèrent à soulever le rideau de fourrure et se glisser dans la hutte, tandis que j'entassais de la glace pilée sur le canon du fusil, à l'extrémité duquel s'amassaient et coulaient dans le pot de fer les gouttes de plus en plus pressées de la liqueur que tu sais, celle que les Indiens appellent « ouf ». Mais ceux-ci n'avaient jamais vu chose pareille, et ils s'agitaient nerveusement pendant que je discourais sur les vertus de l'élixir. Tout en parlant, j'observais des éclairs de jalousie dans l'œil du chaman. Aussi, quand j'eus fini, je le plaçai côte à côte avec Toumasouk et la femme Ipsoukouk. Puis je leur donnai à boire. Les larmes leur montèrent aux yeux et la chaleur à l'estomac. Timides au début, ils devenaient maintenant avides, et quand je les vis bien en train, je m'occupais de servir les autres. Toumasouk se vantait de ses anciennes prouesses et racontait comment il avait tué jadis un ours polaire, si bien que, dans l'ardeur de sa pantomime, il faillit assommer son oncle maternel. Mais personne n'y fit attention. La femme Ipsoukouk se mit à pleurer un fils perdu depuis des années dans la glace, et le chaman à faire des incantations et prédictions. L'orgie continua, et avant le matin, tous étaient par terre, profondément endormis avec les dieux. La suite se devine facilement, n'est-ce pas? Bientôt s'élevèrent de tous côtés les clameurs des gens qui voulaient dormir avec les dieux. Ils apportaient leurs plus chaudes fourrures, leurs meilleures victuailles, et amenaient leurs chiens les plus robustes. mais je vendais le rouge avec discrétion, et j'en cédais seulement à qui m'apportait de la farine, de la mélasse ou du sucre. J'en reçus une telle quantité que je dus ordonner à Moussou de construire une cage où les mettre, car il n'y avait plus de place dans l'igloo. Au bout de 3 jours à peine, tout ma souk était ruiné. Le chaman, qui prenait soin de ne s'enivrer qu'à moitié depuis la première nuit, me surveillait de près. Il tint bon pendant la majeure partie de la semaine, mais avant que 10 jours fussent écoulés, la femme Ipsoukouk elle-même se trouvait à bout de provisions et rentrait chez elle, affaiblie et chancelante. Le lendemain, Moussou arriva essoufflé. « Ô maître, une chose étrange se passe dans l'igloo de Nyuk le chaman. Du coup, nous sommes perdus. Va voir ce qui se mijote là-bas pendant que je surveille le breuvage. » Sur quoi je me rendis à l'igloo de Nyuak. Le bougre avait construit son propre alambic, habilement copié sur le mien. En me voyant, il eut peine à cacher son triomphe, car c'était un gaillard intelligent et dans mon igloo il n'avait dormi avec les dieux que d'un œil. Cependant, cela ne me gênait guère, car le chaman n'avait pas de farine ni de mélasse et m'en demanda. « C'est bien, » répondis-je, « nous ferons un échange. Pour la quantité que voilà de farine et de mélasse, tu me donneras ton bocal de thé à l'étoile et les 2 boîtes de tabac fin. » 2 jours après, Nyuk envoya ses salutations et une invitation à son igloo. Moussou y alla, et je demeurai seul. Un peu plus tard, Moussou rentra, balbutiant et pleurant de rire. « Tu es un grand homme, ô mon maître, » dit-il. « Écoute, je suis allé à l'igloo. Mais le breuvage que nous a présenté Nyuak ne ressemblait pas au tien. Il ne mordait pas la langue, ni ne faisait pleurer les yeux. Ce n'était en vérité que de l'eau pure. Nous bûmes et rebûmes et bûmes encore, mais nous restions assis, froids de cœur et solennels de visage. Alors tout ma souk se leva en colère et redemanda les fourrures et le thé qu'il avait donné en paiement. Et Ipsoukouk éleva à son tour la voix, sa voix criarde et coléreuse. Et toute la compagnie redemanda ce qu'elle avait donné, et ce fut un beau charivari. Je riais intérieurement en passant le houche à la ronde pour dérider mes hôtes, car dans la farine vendue à Nyuak, j'avais mêlé une grande quantité de bicarbonate de soude que je tenais de la femme Ipsoukouk. Bien sûr, sa mixture n'avait pu fermenter et son houche n'était que de l'eau pure. Désormais, le pactole coula chez nous à plein bord. De son côté, Moussou ne perdait pas son temps. Il se fit un jeu de cartes en écorce de bouleau et apprit à Nyuak à jouer aux 4 chances. Il emberlificota dans ce jeu le père de Tukelikita, épousa un beau jour cette charmante fillette, et le lendemain, emménagea dans la maison du chaman, la plus belle du village. La dégringolade de Nyuak fut complète. Il perdit tout ce qu'il possédait, ses tambours de peau de morse, ses instruments à incantation, si bien qu'il en fut réduit à fondre du bois et tirer de l'eau selon le bon plaisir de Moussou. Celui-ci s'installa en qualité de chaman ou grand prêtre, et avec des fragments mutilés des écritures, créa de nouveaux dieux et fit des incantations devant d'étranges autels. Au milieu de toutes ces diversions, la chasse restait en plan et la famine se déclara. Les nuits étaient longues et sombres et sans viande, on ne pouvait acheter de rouge. Le peuple se mit à murmurer contre le chef. Quand je les crus affamés à ce point, je réunis tout le village et fis un grand discours. Je posai au patriarche et distribuai des vivres. Moussou fit à son tour une homélie. Par suite de ses harangues et de mes actes, je fus nommé chef. Moussou, qui possédait l'oreille de Dieu et rédigeait ses jugements en décret, me consacra par une onction de blanc de baleine, et à nous deux nous expliquâmes au peuple la nouvelle théorie du droit divin des rois. Le houche coula à flot, tout le monde se régala de viande et accueillit joyeusement le nouvel ordre de choses. Comme tu le vois, camarade, j'ai trôné en haut lieu, porter la pourpre et appliquer la loi aux populations. Peut-être serais-je encore roi s'il était resté du tabac, ou si Moussou s'était montré plus bête et moins coquin. Car il jeta les yeux sur Essanetouk, la fille aînée de Toumasouk, et je lui fis des représentations, mais il s'entêta et institua la polygamie par décret divin. Mais avec sa finesse habituelle, il limita le nombre de femmes en proportion de la fortune dont, plus que personne, il était le favori. Je supportais tout en silence, jusqu'au jour où il institua une espèce d'impôt proportionnel sur le revenu. Je me révoltai alors, et aveuglément, car c'était ce qu'il voulait. Il fit appel au peuple, et celui-ci, jaloux de ma grande richesse, et déjà lourdement taxé, le soutint. Dès lors, ce fut entre nous une guerre déclarée. Or, il arriva que je m'amourachais de Klouktou, la plus jeune fille de Toumasouk, et qu'elle me rendit l'appareil. Je fis donc ma demande, mais l'ancien chef refusa carrément, après avoir empoché le prix d'achat. Il m'informa qu'elle était réservée à Moussou. Cela dépassait les bornes. J'eus bonne envie d'aller à son igloo et de le tuer de mes propres mains. Mais me souvenant que le tabac tirait à sa fin, je rentrai chez moi en riant. Le lendemain, il fit un sermon et déforma le miracle des pains et des poissons jusqu'à le transformer en prophétie. Lisant entre les lignes, je compris que l'apologue visait les nombreuses réserves de viande emmagasinées dans mes caches. Cette nuit-là donc, j'allais faire un tour dans mes caches à viande et j'accomplis une belle besogne. On remarqua le lendemain que tous les chiens du village étaient paresseux. Personne ne soupçonna rien et je recommençais chaque soir le même travail. Les chiens devenaient de plus en plus gras et les gens de plus en plus maigres. Ceux-ci grognaient et demandaient l'accomplissement de la prophétie, mais Moussou les retenait, attendant que leur appétit grandît davantage. Quand tout fut prêt, j'envoyai Angate et les quelques fidèles que je nourrissais en cachette convoquer l'assemblée du village. La tribu se réunit dans un grand espace de neige battue ménagé devant ma porte, avec les caches à viande montées sur leurs échasses à l'arrière-plan. Moussou y vint parmi les autres et s'arrêta sur le bord du cercle, diamétralement opposé à ma place, certain que j'avais quelques projets sur pied et disposé à m'aplatir à la première occasion. Mais je me levai et le saluai devant tout le monde. « Oh, Moussou, homme béni de Dieu » débutai-je, et je chantai ses louanges. « Oui, mes enfants, » m'écriai-je en me tournant vers la foule, « tout ce que j'ai fait de bien et de juste, je l'ai fait d'après les conseils de Moussou. Tant que je l'ai écouté, les affaires ont prospéré. Quand j'ai fermé mes oreilles à sa prudence et agi à ma guise, je n'ai commis que des folies. C'est grâce à ses conseils que j'ai fait des provisions de viande et pu nourrir les affamés dans les jours de détresse. C'est grâce à lui que j'ai été nommé chef. Et qu'ai-je fait de mon autorité? Rien, je vous le déclare. Le pouvoir m'a tourné la tête, je me suis cru plus grand que Moussou, et cet orgueil m'a porté malheur. Je me suis donc rendu compte de ma sottise et de la sagesse de Moussou, de mon incapacité et de ses aptitudes. C'est pourquoi, ma folie étant passée, je fais amende honorable. J'ai jeté des regards coupables sur Clouctou et voici qu'elle est promise à Moussou. Cependant, elle m'appartient, car n'ai-je pas versé à Thomas Souk les articles d'échange? Mais je me sens absolument indigne d'elle. Autre chose encore. Puisque j'ai mal employé ma richesse et que je vous ai opprimé, ô mes enfants, je fais cadeau à Moussou du bidon à pétrole, de l'os recourbé, du canon de fusil et de la bouilloire en cuivre. Ainsi, je ne pourrai plus amasser de richesses, et quand vous aurez soif de houche, il vous désaltera, sans vous voler, car c'est un grand homme, et Dieu parle par sa bouche. Un dernier mot. Mon cœur s'est amolli, et je me suis repenti de ma sottise. Moi, sot et fils de sot, moi, esclave du déplorable génie des affaires, moi qui vois vos ventres et qui ne sais comment les remplir, pourquoi demeurerai-je votre chef? Pourquoi continuerai-je à vous gouverner et vous conduire à votre propre destruction? Pourquoi m'obstinerai-je à une mauvaise chose? Mais Moussou, votre chaman, sage entre tous les hommes, est apte à vous conduire d'une main douce et juste. Pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, j'abdique et remets mon autorité entre les mains de Moussou, seul capable de vous nourrir aujourd'hui qu'il n'y a plus de viande dans le pays. À ces mots, les applaudissements éclatèrent. Avant la dispersion de la foule, j'annonçai que tout en faisant cadeau de l'alambic à Moussou, je donnais au peuple toulouche en ma possession. Profitant du tapage croissant à mesure que l'alcool montait à la tête des buveurs, je tins conseil avec Angate et mes fidèles. Je leur assignai certaines tâches à accomplir et certaines paroles à prononcer dans certaines circonstances. Puis je m'éclipsai dans les bois derrière le village et gagnai un endroit où je tenais en réserve deux traîneaux avec des attelages de chiens non gavés. Le printemps était sur le point d'éclore et il y avait une croûte sur la neige. C'était donc le meilleur moment pour me diriger vers le sud. En outre, il ne restait plus de tabac. J'attendis en cet endroit où je me trouvais en parfaite sûreté. S'ils se lançaient sur ma piste, ils étaient trop maigres et leurs chiens trop gras pour jamais me rattraper. De surcroît, j'estimais que leur mouvement éventuel prendrait une tournure à laquelle j'étais préparé. D'abord, arriva en courant un de mes fidèles, bientôt suivi d'un second. « Oh, maître !» cria le premier essoufflé. « Une confusion règne dans le village, et personne ne sait que penser, et tous sont d'avis contraire. Tous sont bu avec excès, et certains mendent leurs arcs, et d'autres se querellent. Jamais on n'a vu pareil gâchis. » Le second ajouta. « J'accomplis les commandements, ô maître. J'ai murmuré d'un droit de parole dans des oreilles toutes prêtes à les entendre et rappeler des souvenirs d'antan. La femme Ipsoukouk déplore sa pauvreté et regrette son opulence perdue. Toumasouk lui-même se croit encore chef, et le peuple affamé se déchaîne dans son courroux. Et le troisième, Niawak a renversé les autels de Moussou et fait des incantations devant les dieux respectés de jadis. Tout le peuple se souvient de l'abondance qui lui coulait dans la gorge et qu'il ne possède plus. Puis survint Angait. De grandes tribulations se sont abattues sur Moussou, ô mon maître, car j'ai répandu des murmures, si bien que les hommes sont venus le trouver, se plaignant d'être affamés et demandant l'accomplissement de sa prophétie. En ce moment même, il hurle autour de son igloo, et à l'intérieur, ses femmes font un tel vacarme qu'il ne peut se faire entendre. « Oh, Angait, tu as bien agi » déclarai-je. « Prends maintenant ce traîneau vide avec ses chiens et galope à l'igloo de Moussou, et avant que le peuple, qui est ivre, s'en aperçoive, jette-le vivement sur le traîneau et amène-le ici. » Je donnai de bons conseils à mes fidèles en attendant le retour d'Angait. Moussou était sur le traîneau. Il dégringolait dans la neige à mes pieds en criant « Oh maître, tu pardonneras à Moussou, ton serviteur, toutes ces vilainies commises envers toi. Tu es un grand homme, sûrement tu pardonneras. » « Appelle-moi frère, Moussou, appelle-moi ton frère » criai-je par dérision en le relevant du bout de mon mocassin. « Obéiras-tu toujours désormais ?»« Oui, maître, toujours » pleurnicha-t-il. « Alors étends-toi en travers sur le traîneau » ordonnai-je en prenant le fouet à chien de la main droite. « Courbe la tête vers la neige et dépêche-toi, car nous devons aujourd'hui voyager vers le sud. » Et quand il fut bien installé, je lui appliquai une bonne dégelée de coups de fouet en énumérant à chaque coup ses torts envers moi. Thomas Stevens se sourit doucement à lui-même, en allumant son cinquième cigare et en lançant au plafond une série de volutes de fumée. Ainsi s'achève un breuvage hyperboréen par Jack London.